D'une façon générale, un homme doit habiter en Eretz Israël plutôt que d'habiter en dehors d'Eretz Israël. Ça, ce sont les paroles de nos sages dans le traité de Ketubot du Talmud de Babylone. Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de notamment ce passage et surtout de la vie du Rambam, Maïmonide. Maïmonide reprend ce passage dans son œuvre monumentale, le Mishneh Torah, et l'inscrit dans la Halakha, dans les règles à suivre, la loi à appliquer de la Torah. Donc il ne le considère pas comme un conseil de la part des sages ou comme quelque chose qu'il faut comprendre, il l'inscrit véritablement dans la Halakha. Quelle est l'avis du Rambam? Beaucoup de nos maîtres ont discuté sur l'avis du Rambam. Il y a beaucoup d'idées très différentes. On va essayer de voir l'essentiel, on va dire, de ce qui peut caractériser son avis sur la question de l'installation en Eretz Israël. Alors tout d'abord, nous allons reprendre ce passage du Talmud, plus dans le détail. Donc, en hébreu, ce qui est dit, c'est « Le'olam yadur Adam be'eretz Israël afilu be'ir sheruba akum ». Donc, d'une façon générale, un homme doit habiter en Eretz Israël, même dans une ville où les gens sont à majorité idolâtres. Ve'al yadur be'chutz al-aretz, et il ne faut pas qu'un homme habite en dehors d'Eretz Israël, va filou be'ir sheruba Israël, même dans une ville où la majeure partie des gens sont des gens juifs. Alors, la Gemara explique pourquoi. Parce que kol hayotze lechutz la'aretz, tout celui qui sort pour aller à l'étranger en dehors d'Eretz Israël, keilu oved avodah zara, est comme un idolâtre. Et tout celui qui habite en Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui a un dieu. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail des versets que la Gemara a cités, et ça ne va pas être l'essentiel de l'objet de notre cours. Mais en soi, il est vrai que ce passage, à lui seul, est un passage qui est assez impactant et qui nécessiterait pas mal d'explications, parce qu'il est surprenant. Mais il existe, il est là. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que à quoi doit ressembler un juif? À quelqu'un qui habite en Eretz Israël. À tout prix, même si la majeure partie des gens qui habiteraient là où on va seraient véritablement des idolâtres. Alors, à noter quelque chose d'important, on dit à quoi ressemble. On n'a pas dit qu'en étant en Eretz Israël, on est juif, et en étant en dehors d'Eretz Israël, on n'est pas juif. Mais c'est à quoi on ressemble? À quoi on ressemble, c'est quelque chose d'important quand même. Parce que, voilà, c'est comment on nous regarde, et puis quelque part, ça a un impact. La façon dont on nous regarde, ça a, à un moment donné ou à un autre, un impact sur nous-mêmes. Et donc, cette chose-là, c'est un peu, voilà, à quoi tu ressembles quand t'es ici ou quand t'es là. Après, il reste encore à faire des choses quand on est en Eretz Israël pour être quelqu'un qui a un Dieu. Il reste encore à faire des choses quand on est en dehors d'Eretz Israël pour être véritablement un idolâtre. Et on ne va pas dire que pendant 2000 ans d'histoire, les Juifs étaient des idolâtres. Mais, évidemment, à quoi on ressemble à ce moment-là? C'est ça que est en train de dire la Gemara. Et donc, ça veut dire aussi que si on a la possibilité, si on en a les moyens, c'est ça qu'il faut faire. C'est la chose que les sages nous conseillent de faire, nous disent de faire. Alors, c'est là-dessus où, tout d'un coup, on peut avoir une question. Est-ce que les sages nous conseillent de faire ça? Est-ce que c'est un conseil? On nous dit, c'est bien de... D'une façon générale, c'est bien d'aller habiter en Eretz Israël parce que tu ressembles à quelqu'un qui a un Dieu. Ou est-ce que on est en train de dire non, c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire. C'est-à-dire s'il y a une différence importante quand les sages s'expriment, s'ils sont en train de donner un conseil ou s'ils sont en train de dire c'est ça qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, comme dit, on va parler du Rambam Maïmonide. Qu'est-ce que pense le Rambam? Quel est son étude, sa façon d'aborder le sujet de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. C'est pas un exercice simple, on va tenter de le faire. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Je commence par là parce que, effectivement, le Rambam, Maïmonide, dans son œuvre, le Mishneh Torah, sur ce passage-là, il l'a inscrit dans les Ilchot Melachim, les lois sur les rois, ou Milchamot et sur les guerres. Donc le Rambam a écrit, Maïmonide a écrit des lois par rapport aux rois, par rapport aux guerres, comment est-ce qu'on se conduit, etc. Et ici, il dit qu'un juif doit habiter en Eretz Israël. Et il cite texto le passage du Talmud et il l'inscrit véritablement dans la halakha, ça veut dire dans le corpus de loi qu'il faut suivre. C'est l'avis du Rambam. Il peut y en avoir plusieurs. Nous, on a déjà vu l'avis du Ramban de Nachmanide qui clairement dit qu'il y a une mitzvah, que la Torah nous ordonne d'habiter en Eretz Israël. Là, la question est de savoir si Maïmonide pense aussi la même chose. Il faut savoir que la façon dont on constitue la halakha, à la fin de l'histoire, la loi, c'est justement en regardant les différents avis des grands maîtres et en regardant si tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, alors effectivement, ça va être inscrit pour tout le monde et tout le monde est d'accord dans le texte des lois. Mais pour ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce que pense Maïmonide, qu'est-ce que pense le Rambam. Alors apparemment, ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ça. C'est qu'il faut habiter en Eretz Israël et il nous dit aussi que on ne peut pas, il est interdit de sortir d'Eretz Israël pour aller en dehors d'Eretz Israël. Mais de la même façon, il y a quelque chose de particulier avec Babel, Babylone, où là se trouvent nombre de yeshivot pendant de très nombreuses années, et nombre d'endroits d'études, et où on va dire aussi dans la Gemara, en s'appuyant sur un verset qui est dans Jérémie, dans Yirmiya, que Babel est un endroit spécial, particulier. Et donc, dans cet endroit particulier, en Babylonie, on ne peut pas sortir de Babel pour aller en dehors de Babel comme on veut. On doit rester, si on y est, si on y habite, on peut définir les frontières si on veut vraiment savoir à quoi, de quoi on parlerait aujourd'hui, mais en tout cas, celui qui habiterait en Babylonie ne pourrait pas sortir de Babylonie pour aller à l'extérieur, ce serait interdit. Une question qui peut se poser, c'est est-ce que si on est en Babylonie, on a le droit de sortir pour aller en Eretz Israël? C'est une bonne question. Le Rambam ne le dit pas. Et là-dessus, par exemple, on va avoir de nombreuses discussions. Qu'est-ce que pense le Rambam sur ce sujet? Le fait est que, pour l'instant, le fait d'aller habiter en Eretz Israël pour Maïmonide, pour le Rambam, c'est quelque chose d'important, de préférable à habiter en dehors d'Eretz Israël. Ça, c'est clairement établi dans le Rambam, au point même qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas en sortir comme ça. Alors aujourd'hui, on pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut sortir en vacances, est-ce qu'on peut sortir momentanément, etc. Ce sont des questions qui sont posées aujourd'hui dans la halakha. Bien sûr, on ne va pas aujourd'hui trancher la halakha, ces questions-là. Mais ça existe sur la base de ce principe. Ce n'est pas si évident de partir d'Eretz Israël. Il y a un autre endroit que nous allons prendre maintenant pour essayer de comprendre quel est l'avis du Rambam vis-à-vis de la question. On a des règles sur comment on doit se conduire si on a, si tant est qu'on a un éved, c'est-à-dire un serviteur ou un esclave, si vous voulez. Alors, on peut avoir des esclaves? Aujourd'hui, on n'en a pas. Non, effectivement, la loi internationale ne nous permet pas d'avoir un esclave. C'est complètement sorti des habitudes de tous, et tant mieux, je dirais. Ceci dit, il y a une époque où il y avait des gens et qui avaient des serviteurs, et la Torah parle de ça. Elle va dire, ok, t'as un serviteur, t'as un esclave, entre guillemets, comment ça se gère? Il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec son serviteur. On a beau avoir payé pour qu'il soit à son service, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et notamment, donc là, il y a des règles, et notamment, on va avoir une règle un peu particulière. Alors, il faut faire la distinction entre un serviteur qui est juif ou un serviteur qui n'est pas juif. Il y a déjà des différences. Un serviteur qui est juif ne peut pas rester serviteur toute sa vie. Il y a un moment donné où ça s'arrête. un serviteur qui n'est pas juif pourrait rester toute sa vie serviteur. Le maître aurait payé donc suffisamment d'argent pour acheter ses services pour toute la vie. Mais le maître a des devoirs par rapport à cette personne, et notamment, il y en a un assez particulier. Un serviteur, donc non-juif, pourrait dire à son maître, je ne veux pas rester habité en dehors d'Eretz Israël, et je veux habiter en Eretz Israël. Donc voilà, il s'agit d'un cas où le maître habite, je ne sais pas, en France par exemple, et puis il a un serviteur, on est, je ne sais pas, en 1100, ou un truc comme ça, et il faut imaginer le serviteur non-juif qui dit ben moi je ne veux pas rester ici, je veux partir en Eretz Israël. Ah ben dans ce cas-là, le maître, il est obligé de monter en Eretz Israël avec lui. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est le vendre à quelqu'un qui part en Eretz Israël. Donc vendre les services de cette personne à quelqu'un d'autre qui va maintenant partir en Eretz Israël. Ça, c'est possible. Mais il est obligé de le faire, l'un ou l'autre. Il ne peut pas le garder en l'état. S'il a le désir de partir en Eretz Israël, ce serviteur, on doit écouter ce qu'il dit. Quitte à changer toute la vie, et tout le projet de vie, on va dire même, du maître. Bon, évidemment, j'ai dit, hein, par exemple, en 1100, tout cela doit garder certaines configurations. Est-ce que c'est dangereux d'y aller à ce moment-là? Est-ce qu'il y a les moyens pour le faire, etc. Donc on peut toujours avoir des marges de discussion sur cette chose-là. Mais mettons qu'on est dans un environnement où c'est possible, où on ne va pas attendre un miracle pour que ça arrive, où il y a moyen d'y aller, il y a des transports pour ça, c'est pas dangereux, il y a moyen aussi pour le maître financier finalement de pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de son serviteur en Eretz Israël, et bien il est obligé de le faire. Et on serait obligé, le tribunal a comme responsabilité d'obliger le maître à le faire. Si maintenant le cas inverse, le maître habite en Eretz Israël et il veut partir en dehors d'Eretz Israël, il veut dire ok, on déménage, on reste pas là, le serviteur, celui qui est au service de son maître, peut lui dire ah non mais moi je pars pas, moi je reste ici, je reste en Eretz Israël, il n'est pas question que je parte habiter en dehors d'Eretz Israël. Et là-dessus, encore une fois, on oblige le maître à respecter le souhait, le désir de ce serviteur, de son serviteur. Donc on va dire que c'est un esclave, mais qu'il y a quand même la possibilité d'exprimer le désir de certaines valeurs qu'il peut avoir. Et si le maître, dans ce cas-là, qui habite en Eretz Israël, qui désire partir, veut vraiment partir, eh bien il est obligé de vendre les services de cette personne à quelqu'un d'autre en Eretz Israël, ou alors de rester en Eretz Israël. Mais il ne pourra pas obliger le serviteur, contre son gré, à partir en dehors d'Eretz Israël. Ça, c'est ce que le Rambam Maïmonide ramène la halakha dans la loi sur les Hilchot Avadim, les lois qui concernent les esclaves, les serviteurs. C'est pas fini. Si mettons qu'ils ne sont pas mis d'accord, le serviteur se sauve. Il s'enfuit. Il dit, ok, on ne va jamais y arriver avec ce maître, il s'enfuit. Un esclave, un serviteur qui s'enfuit d'un pays qui n'est pas Israël, donc on va dire Chutz la'aretz, un pays qui est en dehors d'Eretz Israël, il s'enfuit de chez son maître pour aller en Eretz Israël. Quand il arrive en Eretz Israël, on n'a pas le droit de le ramener à son statut d'esclave. Il est sorti, en fait, si vous voulez, de son statut d'esclave. Il n'est plus un esclave, il n'appartient plus à ce maître. Il faut, d'un point de vue, on va dire, des formalités administratives, que le maître écrive quand même un contrat qui dit qu'il libère ce serviteur. Il faut le faire. Cependant, lui, il n'est plus esclave. Donc, on va obliger son maître à respecter certaines formalités, et lui, il est devenu juif. Ça veut dire que cette chose-là fait que Il fait une conversion. Alors là aussi, il y aura encore les formalités à respecter de la conversion, mais ça lui donne le droit d'être libre et de devenir juif complètement et d'habiter en Eretz Israël. Donc un serviteur qui s'enfuit d'Eretz Israël pour arriver en Eretz Israël acquiert par là même sa liberté et devient quelqu'un qui est considéré comme juif, un ger tzedek, quelqu'un qui s'est converti et qui à qui il faut faire vraiment très attention. On doit faire attention à cette personne. On sait qu'il est fragile, il n'est pas natif de l'endroit, il n'a pas de réseau, il n'a pas de famille. Donc très facilement, on peut, exprès ou sans faire exprès, lui mettre un peu de pression dans la vie. Il ne faut surtout pas, il faut faire très attention à lui. La Torah répète suffisamment cette chose-là, vraiment à très nombreuses reprises. Faire très attention à la personne qui s'est convertie, ce n'est pas évident pour lui. Donc on doit faire très attention à cette personne-là. Et il a acquis sa liberté. Ça, c'est ce que Maïmonide tranche dans la loi. Alors bien sûr, il pas inventé cette règle-là. L'Agmara dans Gittin, dans le traité de Gittin, donc le Talmud de Babylone dans Gittin, dans le Daf Mem E, la page 45, va notamment expliquer le détail de ça. Mais cette Gemara, elle est interprétée de façon différente. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce passage du Talmud. Certains maîtres pensent que non, un serviteur qui s'est enfui, il peut rester en Israël, certes, mais il ne va pas devenir libre. Bon, il y a différents avis. Le Rambam Maïmonide a choisi cette interprétation-là. Pour lui, il est clair que le fait que ce serviteur soit monté en Eretz Israël, qu'il fasse de lui-même, qu'il accomplisse son désir d'exprimer ses valeurs de cette façon-là, de lui-même, ça le libère en soi de son statut d'esclave. C'est quelque chose qu'il faut expliquer. Alors certes, il faut expliquer le Rambam Maïmonide dans l'Agmara elle-même, dans le détail de l'Agmara, mais ça on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Mais il faut essayer aussi d'expliquer le sens que ça peut avoir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette chose-là, que le fait qu'il ait le désir de monter en Israël, ça le rend libre. Et puis en fait, c'est pas si simple, parce que ça le rend pas toujours libre. Si le maître est OK avec le principe de partir en Israël et qu'il monte avec lui, eh ben très bien, ils vont monter ensemble. Le serviteur aura assouvi son désir de monter en Israël, il sera même monté avec son maître, mais il sera pas libéré pour autant. Donc c'est pas si simple, il faut rentrer dans le détail de la question, à quel moment on va dire que ce désir qui se réalise, c'est quelque chose qui le libère, et pourquoi ça le libère. Il y a un grand maître, qui est le Avnénézer, un grand décisionnaire du 19e siècle, le Rav Avraham Bronstein, on en a probablement déjà parlé, on en reparlera encore probablement, qui s'attarde sur ce sujet, sur le Rambam. Il a un long texte où il explique sa décision par rapport, sa décision halakhique, donc de la loi, par rapport à Eretz Israël en son temps, en 1870, et il va notamment citer ce Rambam, et il va donner un sens à ce qu'on a dit ici dans le Rambam. Notamment, qu'en fait, le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est quelque chose comme on voit dans Kriyat Shema, dans la lecture du Shema Israël que nous lisons le matin, il y a un passage qui va dire, voilà, si tu écoutes les mitzvot, Vayaim Shamoa Tishmiru, si vous écoutez les mitzvot, ce qui va se passer, c'est que Hachem va donner la pluie. La pluie qui est nécessaire pour le début de la récolte, la pluie qui est nécessaire pour la fin de la récolte, donc vous aurez une bonne récolte, et vous allez pouvoir récolter votre blé, votre huile, votre vin, vous allez pouvoir manger à satiété, vivre. L'économie du pays va pouvoir fonctionner. Donc, ça c'est le principe sur la terre d'Israël. Comment la Torah voit les choses? Si tu habites en Eretz Israël et que tu fais des mitzvot, tu vas pouvoir... Hachem va te donner la pluie, il va te donner les moyens de survivre économiquement et même bien, de te rassasier. Le Avnénézer, donc le Rav Avraham Bronstein, va nous dire la chose suivante. Quand on est en fait sur cette terre d'Israël, il y a quelque chose de particulier dans l'échange entre un homme et son créateur. Ici particulièrement, il n'y a pas d'intermédiaire. Ici particulièrement, ce qui se passe, c'est que en faisant les mitzvot, on va avoir les moyens économiques de survivre ou de subvenir même largement à ses besoins. Cet enjeu-là, il est très important. Il est dit, voilà, on le lit tous les matins dans le Kriyat Shema, à plusieurs reprises, on le voit dans la Torah. Et en soi, la question n'est pas de savoir si ça marche ou pas. C'est pas de savoir, ah ben moi j'étais là-bas, j'ai fait les mitzvot, ça n'a pas marché. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse surtout, d'abord c'est très personnel, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que on a une mitzvah à faire ça. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de rentrer dans ce jeu-là. De rentrer dans le jeu où on est Israël. Particulièrement, je sais que je vais avoir un rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de croire en cela et de faire notre vie en fonction, de progresser dans les mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot, et en sachant que ça va améliorer notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire quand on est en Israël. C'est quelque chose, c'est un effort particulier qu'on doit faire en Eretz Israël, de là, quand on est en Eretz Israël d'ailleurs, travailler finalement quand on est en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Et si vous voulez, on est en train de dire que quand on se trouve en Eretz Israël, on est un peu à la table du roi. Le fait d'être invité à la table du roi, dans l'environnement du roi, ben nous libère de tout ce qu'on peut avoir ailleurs. On ne peut pas être esclave et à la table du roi. Ça ne peut pas être ça en même temps. Donc si cet esclave, il part en Eretz Israël, il y va de son désir, et il y est, et il y arrive, donc il est à la table du roi. Quelque part, il y est même invité. Il y est. Une fois qu'il est à la table du roi, il n'a plus d'obligation, on ne peut pas dire qu'il a un maître. Celui qui lui donne à manger maintenant, celui qui a l'obligation de le nourrir, quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu. On comprend d'ailleurs un peu mieux ce que veut dire ce qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui habite en Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu parce qu'il se positionne comme quelqu'un qui cherche à faire les lois données par son Dieu pour avoir ses moyens de subsistance pour faire ses lois après, même largement. Et donc, ce serviteur, quand il arrive en Eretz Israël, il se soumet directement à Hachem, ça le libère de son esclavage par rapport à son ancien maître, qui ne peut pas, aujourd'hui, insister pour qu'il revienne. Si le maître était parti avec lui, alors le maître lui-même se serait soumis à cette mitzvah-là. Le maître lui-même aurait été ce maître dans ce jeu, à savoir, est-ce que je fais sincèrement, correctement, les mitzvot de la Torah et est-ce que mon travail me permet de vivre et de survivre normalement, de rentrer dans cet enjeu de émouna, de foi, finalement, particulière qu'il y a à appliquer, à vivre en Eretz Israël. Et si, donc, le maître avait joué ce jeu-là, alors, eh bien, son serviteur, il serait resté au service du maître, et il aurait été satisfait de vivre dans un environnement où on fait cela. À partir du moment où le maître refuse de le faire, donc le serviteur est privé d'un environnement pareil. Et ça, c'est un environnement que tout le monde a le droit d'aller. Tout le monde a le droit de faire. Tout le monde a le droit à avoir cet environnement-là. Donc le serviteur d'une personne qui est juive, en tant que serviteur, a ce droit-là de pouvoir... être à la table du roi, faire les mitzvot, et dépendre dans son quotidien uniquement de Akadosh Baruch Hu. C'est encore beaucoup à développer, c'est à approfondir. On n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de cette idée-là aujourd'hui. Il faut vraiment se pencher sur le texte. Voilà, pour ceux qui veulent, je vous le répète, ça se trouve dans le Talmud de Babylone, dans le Daf Mem E, la page 45 du traité de Gittin, et le Rambam, Maïmonide, en parle dans le Mishneh Torah, au 8e Pérek, des lois sur les esclaves. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, C'est ce lien-là qu'il y a entre le premier texte que le Rambam tranche dans l'Halakha et le deuxième texte, qui est un choix du Rambam. Évidemment, le choix, il est fait par rapport à sa compréhension de la Gemara, mais il y a une continuité dans l'idée aussi de ce que veut dire habiter en Eretz Israël. Il y a un troisième texte de Maïmonide que nous allons citer, on en a déjà parlé, c'est si un homme veut monter en Eretz Israël et une femme ne veut pas monter en Eretz Israël, donc nous en avons déjà parlé, on le répète, si un homme veut monter et sa femme ne veut pas, il peut donner un acte de divorce à sa femme sans avoir à payer le contrat de mariage qui était prévu au départ, et donc il peut partir en Israël sans payer sa ktouva. Je rappelle, quand un homme se marie, il écrit, il signe une ktouva, c'est-à-dire qu'il s'engage, en cas de divorce, à payer une certaine somme, ou au cas où il meurt, il y aurait de son patrimoine une certaine somme qui est définie, qui va aller directement à sa femme, en dehors de toute considération sur l'héritage possible. Donc, quand il veut, un homme, partir en Eretz Israël, et que sa femme ne le souhaite pas, eh bien, il lui dit « je ne suis plus tenu par cet engagement que nous avions souscrit au début du mariage ». Et donc, il peut la divorcer sans avoir à payer la ktouva. Inversement, l'inverse est vrai aussi, si une femme veut partir en Eretz Israël et que son mari ne le souhaite pas, elle peut lui imposer de lui donner l'acte de divorce et aussi de payer intégralement l'engagement de la ketouba, de l'acte de mariage. Quelque part, ça veut dire que on considère dans un mariage que tout ce qui est engagé avec l'acte de mariage se fait sous couvert que si c'est possible d'aller en Eretz Israël, eh bien on va le faire. C'est une évidence. Et ça, c'est discutable au niveau de la halakha. Ça, c'est ce que la Gemara dit, ce que nous avions cité. Est-ce qu'on va dire ça toujours dans tous les cas, dans toutes les époques, dans toutes les situations? En tout cas, tel que le Rambam Maïmonide le ramène dans les Hilchot Ishut, dans les Halachot, qui sont les lois qui sont relatives au couple. Comment est-ce que, dans un couple, on gère la question, est-ce qu'on veut monter en Eretz Israël? Quelles sont les obligations des uns et des autres? C'est comme ça que tranche le Rambam. Voilà. Pourquoi je ramène ces différents endroits? Il y en a encore un autre qu'on va amener tout de suite. C'est pour une question générale sur la vie du Rambam. À part le Mishneh Torah, en dehors de l'œuvre du Mishneh Torah, du Rambam, de Maïmonide, il écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaMitzvot. Il y a un passage dans le Talmud qui dit qu'il y a 613 mitzvot. Donc le Rambam prend ce passage au mot, c'est pas le premier, mais il va faire son décompte des 613 mitzvot. Et donc, dans le Sefer HaMitzvot, il va dire exactement quels sont ces 613 mitzvot, les commandements positifs, les commandements négatifs. Avant lui, il y a des Géonim aussi, des gens qui étaient des siècles précédents, qui ont fait aussi ce travail-là. Et il n'est pas toujours d'accord avec eux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il écrit son livre, c'est pour dire qu'il y a des endroits où on n'est pas d'accord sur les mitzvot qu'il faut comptabiliser dans ce décompte des 613 mitzvot. Pourquoi on en parle? Parce que dans ces 613 mitzvot, il y a plein de choses qui concernent Eretz Israël, mais la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle n'est pas répertoriée. Donc, tout d'un coup, on a une question vis-à-vis du Rambam, de Maïmonide. Qu'est-ce qu'il pense? On voit que, d'une part, dans son œuvre, le Mishneh Torah, à plusieurs reprises, et il y a encore d'autres endroits, on a pris des endroits clés comme ça, mais à plusieurs reprises, il a l'air de dire que le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est quelque chose de très important, de même fondamental dans le judaïsme pour une personne juive. Et puis, dans son décompte des 613 mitzvot, ça a l'air que c'est pas compté, donc c'est pas là. Et ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'on va comprendre la vie du Rambam, de Maïmonide? Et ça va faire beaucoup de débats et beaucoup de livres qui vont être écrits et d'avis qui vont être donnés là-dessus. On va essayer de voir les principaux aspects de cette question. Alors notamment, le Ramban, c'est-à-dire Nachmanide, va écrire sur ce livre des 613 mitzvot des commentaires. Parfois, il dit, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, et une des choses qu'il va dire, c'est notamment cette mitzvah de s'installer en Eretz Israël, tu ne l'as pas comptée, et il faut la compter dans les 613 mitzvot. Donc on a une discussion, une dispute déjà entre Maïmonide et Narmanide, savoir est-ce qu'il faut compter dans les 613 mitzvot la mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Sur le commentaire de Narmanide, il y a un autre commentaire qui s'appelle le Megillat Esther, donc c'est le nom du livre, qui va lui défendre le positionnement du Rambam, de Maïmonide, et qui va dire que d'après le Rambam, il n'y a pas de mitzvah du tout de monter en Eretz Israël. Ce commentaire du Megillat Esther va être une base de référence pour plusieurs grands rabbins érudits qui vont dire que d'après le Rambam, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors c'est ça, le grand débat, la grande question. Est-ce que Maïmonide pense qu'il faut habiter en Eretz Israël ou pas ? Nous avons déjà vu plusieurs textes qui allaient plutôt dans le sens de dire que effectivement, il pense qu'il faut habiter en Eretz Israël, ça c'est quand même assez clair, d'après les textes que nous avions vus précédemment, notamment sur le fait que tout homme doit habiter en Eretz Israël, même dans une ville où il n'y a pas la majorité qui habite, qui est juive, et même si ce sont des idolâtres. Le serviteur, l'esclave qui, s'il s'enfuit en Eretz Israël, est libéré. Et le Rambam précise bien, et ça c'est important, quand il dit « il est libéré », il dit « cette loi-là, c'est quelque chose qui marche de tout temps ». Et il précise, les mots en hébreu, « afilou bismanazé, sha'aretz biyadakum ». En son temps, la terre appartenait aux idolâtres, et il dit « afilou bismanazé », même aujourd'hui où la terre appartient, est aux mains des idolâtres, si le serviteur s'enfuit et part en Eretz Israël, il est libéré. C'est pour dire quand même que c'est un peu difficile à imaginer qu'on puisse libérer un esclave sur la base de ce que la Torah nous dit. Ce serait un digne de la Torah qu'on doit libérer cet esclave. Il y a une référence dans les Psukim qui dit « Tu n'as pas le droit d'enfermer un esclave chez son maître ». Et ce qui explique, enfin le Rambam, le Maïmonide notamment, qu'il faut libérer l'esclave se base sur ce verset-là. Il se base sur ce verset-là pour expliquer pourquoi il faut libérer l'esclave. Donc, apparemment, c'est difficile de dire que ce que le Rambam Maïmonide nous dit là-bas, c'est pas quelque part qu'il pense que c'est une mitzvah de la Torah d'habiter en Eretz Israël et pas juste une habitude, par exemple, que les Juifs ont prise. L'autre règle, celle entre un homme et une femme, cette loi-là aussi, qui est tranchée et ramenée par le Rambam, elle est quand même très, très difficile. On l'a déjà dit, et je le répète encore aujourd'hui, bien évidemment, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, parce que l'objectif de Talmidei Chachamim, dans une dispute qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme, c'est de faire le shalom bayit, qu'il y ait du shalom dans une maison, et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Si on a dit la halakha comme ça entre un homme et une femme, c'est surtout pour dire combien c'est important, et ça peut même avoir une importance sur un contrat entre un homme et une femme. Mais c'est pas l'objectif, ce sont pas des choses à faire. En cas de problème, il faudrait consulter un rabbin, ce serait une meilleure idée. Mais pour dire l'importance que ça a pour le Rambam, pour Maïmonide et pour les Chachamim, le fait d'habiter en Eretz Israël. Donc dire que le Rambam, Maïmonide, pense que ce n'est pas une mitzvah, c'est très étonnant de la part du Megillat Esther. Mais il en fait une démonstration. Et de son côté, Narmanide, le Rambam, dit « Écoute, t'as oublié de la compter ». Donc si tu as oublié de la compter, ça veut dire qu'il faut la compter. Donc d'après Narmanide, le décompte des 613 mitzvot va être différent. Parce que si vous comptez ça comme une mitzvah, ça veut dire qu'il y en a une autre qui n'en est pas une. Vous voyez, c'est précis, 613. Donc si tu peux pas en rajouter une ou en enlever une. Donc si tu mets cette mitzvah dans les 613 mitzvot, ça veut dire qu'il y en a une autre qui ne l'est pas. Dans ce livre, le Sefer HaMitzvot, le Rambam Maïmonide introduit en expliquant de quelle façon il considère ce qui est une mitzvah et ce qui n'en est pas une. Comment on va calculer ces 613 mitzvot, en fait? Comment on va considérer que ça, c'est à mettre en avant? Parce que des choses que la Torah nous demande de faire, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a même probablement beaucoup plus que 613, c'est sûr, en fait. Il y a beaucoup plus que 613 choses que la Torah nous demande. Donc, comment est-ce qu'on va dire ça, c'est une mitzvah, et ça, ça n'en est pas une? D'ailleurs, c'est assez étonnant aussi, c'est que dans le Talmud, c'est pas l'objet d'un débat. Il y a un passage qui dit... Oui, il y a 613 mitzvot, mais quand il y a une dispute entre un maître et un autre dans le Talmud, on ne va pas dire ben, d'après toi, ça c'est une mitzvah, d'après l'autre, ça n'en est pas une, donc on va avoir un différent sur le décompte des 613 mitzvot. Ça c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le Talmud. On n'a jamais posé cette question. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez moderne finalement, ce que le Maïmonide, ce que le Rambam y fait. Ou alors de dire que c'était effectivement une discussion et qu'ils avaient, ben, les maîtres du Talmud, leur propre discussion sur comment on décompte les mitzvot et les 613 mitzvot. Donc, le fait de savoir comment on fait ce décompte, c'est important. Et le Rambam, Maïmonide, avant d'amener son décompte, il explique clairement, voilà comment je fais et comment on doit faire pour dire ça c'est une mitzvah à compter ou ça n'en est pas une. Il faut savoir qu'il va y avoir des mitzvot qui ne vont pas être comptées parce qu'elles appartiennent, entre guillemets, elles dépendent d'une autre mitzvah. C'est un petit peu comme si une mitzvah qui est comptée dans la 613 mitzvot, c'est pas une tête de chapitre, mais presque. C'est pas un titre de chapitre, mais presque. Il peut y avoir d'autres mitzvot qui sont des mitzvot de la Torah et qui ne sont pas comptées dans la 613 parce qu'elles appartiennent, en fait. C'est une mitzvah sous-jacente à une autre. Elles dépendent de l'autre. Alors, du coup, là, ça devient vraiment intéressant parce que ça suppose la façon de délimiter, de décompter les 613 mitzvot, comment le Rambam, par exemple, Maïmonide, a une vue sur toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, on peut, en rentrant dans l'étude précise des mitzvot, on peut, d'après le Rambam, par exemple, on va comprendre, cette mitzvah-là, c'est une tête de chapitre, donc il y a d'autres mitzvot qui vont dépendre de ça. Ça veut dire que la raison de cette mitzvah fait que la suite est évidemment tel ou tel autre commandement. Et c'est une façon de comprendre comment il comprend, pas seulement comment il compte, mais comment il comprend le sens même de chaque mitzvah. Donc c'est une étude qui n'est pas évidente et qui est vraiment passionnante. Il y a un des principes de comment on compte les 613 mitzvot, ça va être notamment que si on a quelque chose que la Torah nous demande, mais qui est trop général, qui a un aspect trop général, qui englobe beaucoup d'autres mitzvot, pas juste une ou quelques-unes, mais qui est vraiment un principe fondamental, on va dire, de la Torah, qui englobe vraiment tout ou partie de la Torah, on ne peut pas la décompter dans les 613 mitzvot. C'est quelque chose de global. On ne peut pas le décompter dans les 613 mitzvot. C'est quelque chose qui englobe trop d'autres choses pour pouvoir être décompté dans les 613 mitzvot. Alors ça, c'est un point qui est important. Il y a beaucoup de maîtres qui vont aller dans ce sens-là pour expliquer le Rambam Maïmonide. Donc, en disant, on voit bien, d'après notamment les textes que nous avons vus au début, que le Rambam prend en considération la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, et d'après la lecture qu'il fait des Gemarot, ça a l'air vraiment qu'il considère que c'est une mitzvah de la Torah, c'est pas une mitzvah que les rabbanim, que les sages ont ajouté, mais c'est une mitzvah que la Torah nous demande de faire, ça semble assez évident. Et en même temps, comme c'est quelque chose de très général, ce n'est pas compté dans les 613 mitzvot. C'est pour ça que le Rambam Maïmonide ne l'a pas compté dans les 613 mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quelque chose de très général? Il faut s'installer en Eretz Israël, point à la ligne. Ça a l'air simple. En vrai, non. Évidemment, le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est un projet. Mais un projet énorme, c'est le projet d'un peuple. Il y a des mitzvot qui nous demandent donc de faire attention comment on fait l'agriculture. jusqu'à encore très récemment, et même encore aujourd'hui, l'agriculture, c'est quand même quelque chose de très important dans l'économie d'un pays. Donc, comment on fait l'agriculture ? Ben, une fois tous les 7 ans, on s'arrête. On va tous étudier, par exemple. Une fois tous les 7 ans, on s'arrête, on va tous étudier. C'est sympa. C'est un projet ? C'est le projet. Dans la Torah, c'est le projet. Donc, c'est pas le projet de deux personnes, c'est le projet de tout un peuple. Comment est-ce qu'une économie fonctionne ? Imaginez une économie où tout s'arrête d'un point de vue de l'activité. Ah, maintenant, on arrête, on va étudier. Pendant une année. C'est les règles de la Shemitah. Il y a des règles particulières, par exemple, par rapport au Yovel. C'est au bout de 49 ans, la 50e année, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des esclaves qui sont libérés, il y a des prêts qui sont annulés, il y a plein de choses incroyables qui vont se passer pendant le Yovel. Les gens retournent sur leur terre d'origine, leur patrimoine familial, même si ça a été vendu. D'ailleurs, quand on vend un territoire qui est agricole, on ne le vend pas ad vitam aeternam, on le vend que pour une partie de temps, qui reste jusqu'au Yovel, parce qu'arrivé au Yovel, tout, chacun récupère sa terre familiale. Bon, ça aussi, c'est encore un projet. C'est toute une histoire. C'est la famille a une place quand même considérable dans l'économie du pays. C'est intéressant à comprendre. Mais il faut vraiment approfondir le sujet. Là, je vous donne vraiment les têtes de chapitre, mais c'est quelque chose vraiment qui est à approfondir. On va avoir, dans le fait d'habiter en Eretz Israël, l'obligation de nommer un tribunal. Bon, ça, c'est aussi en dehors d'Eretz Israël, mais particulièrement en Eretz Israël. S'il y a un Beth Amikdash, est-ce qu'il faut construire le Beth Amikdash ? Quand il faut le construire ? Est-ce qu'on a la possibilité ? Respecter les règles de pureté et d'impureté, de Tahara et de Touma. S'il y a un Beth Amikdash, il faut être Tahor, il faut être pur. Parce qu'on ne va pas rentrer n'importe comment dans le Beth Amikdash. C'est très important. Donc chacun va devoir respecter cette chose-là. Quand on récolte, on doit laisser une partie du champ pour les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger. On doit aussi distribuer une partie de la récolte pour les gens qui sont les Kohanim, les prêtres qui vont servir au Beth Amikdash, mais aussi pour les Lévim qui vont chanter et mettre une certaine ambiance probablement dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas seulement d'ailleurs une ambiance, mais il y a tout un environnement d'études, parce qu'ils ne sont pas toute l'année au Beth Amikdash, les Kohanim et les Lévim. Donc c'est un environnement d'études qui doit exister et qui va faire en sorte qu'il y a toute une vie de Torah qui est vécue dans la réalité et au cœur même de l'économie en Eretz Israël. Bon, et on n'a pas tout dit encore. Donc, vous imaginez, c'est quand même quelque chose, c'est un projet incroyable, c'est un projet énorme. Effectivement, le fait d'habiter en Eretz Israël, on peut comprendre que c'est une loi qui englobe énormément de choses. Et donc, ça ne peut pas être compté dans les 613 minutes. Et pour aller un peu plus loin dans l'avis du Rambam, sur cette façon d'expliquer le Rambam-là, on va aller visiter une Gemara dans le Talmud qui va nous donner aussi quelque chose de très intéressant dans le fait d'habiter en Eretz Israël, qui est relié au calendrier, donc à la mesure du temps. Comment est-ce qu'on fixe le temps ? Comment est-ce qu'on fixe le calendrier ? Et quel lien ça a par rapport à Eretz Israël ? Donc pour cela, nous allons faire un détour dans la Gemara Brachot, donc le passage du Talmud de Babylone sur le traité de Brachot. Auparavant, juste pour introduire, pour qu'on comprenne bien ce passage, il y a une mitzvah qui va être de délimiter, de fixer le temps, le calendrier. Le tribunal, sur la base de témoignages de gens qui ont vu la lune à tel moment et dans telle forme, vont décider si aujourd'hui c'est le premier jour du mois ou si c'est demain. Il n'y a pas une marge énorme, hein, c'est aujourd'hui ou demain. Mais c'est le 29e ou le 30e jour. Mais, donc du coup, le 30e jour, est-ce que c'est le premier jour du mois suivant ou est-ce que le 30e jour, c'est le 30e jour du mois précédent ? Ben, ça se décide. En réalité, d'après la Torah nous demande, et c'est même la première mitzvah de la Torah, demande au tribunal de recevoir des témoignages de gens qui ont vu la lune, telle forme, tel moment, pour pouvoir dire aujourd'hui c'est Rosh Chodesh ou pas, ou demain. Donc ça c'est une mitzvah en soi, c'est une mitzvah de fixer le mois. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah très importante. Il s'avère qu'à un certain moment donné, on ne peut plus avoir le tribunal qui peut prendre en charge la responsabilité de fixer si aujourd'hui ou demain c'est Rosh Chodesh. Donc dans l'histoire, on va dire qu'on fait un calendrier. Voilà, pour résumer de façon très globale. On fait un calendrier. On a décidé un calendrier, on connaît les comptes, on a décidé de faire que automatiquement, tous les ans, on s'y retrouve en fixant tel jour, le premier jour du mois, et tel jour, le dernier jour du mois. C'est fixé, et aujourd'hui, on fonctionne avec ça, on a un calendrier qui, mathématiquement, est juste et correspond à nos principes de calcul du calendrier qui va se baser sur le cycle solaire, le cycle lunaire, en même temps qui va se mettre en symbiose. Et donc, ça, on a un calcul comment on le fait, et on le retrouve dans le calendrier un peu, on va dire, automatisé qu'on a aujourd'hui. Maintenant, le passage que nous allons voir dans la Gemara de Brachot, on est à un moment donné où ce calendrier n'est pas encore mis en place. Un calendrier perpétuel, on va dire, qui fonctionne tous les ans, toujours le même pour tout le monde, n'est pas encore mis en place, et on a encore à un moment donné où les Talmidei Chachamim, les sages, peuvent dire, voilà, aujourd'hui c'est le premier jour du mois parce que j'ai reçu le témoignage d'un tel. Imaginez bien que une chose pareille va avoir une implication assez importante dans la vie quotidienne des Juifs. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le premier jour du mois ou pas, on saura que quand le tribunal l'aura dit. C'est à vivre, c'est donc une expérience quand même assez, assez incroyable. Alors, on a ce passage-là qui nous dit, au nom de Rav Safra, que Rabbi Hanina, le fils du frère de Rabbi Yoshua, est descendu et sorti d'Eretz Israël pour aller en Chutz La'aretz. Et donc il est parti en Chutz La'aretz, pour des raisons dont on ne précise pas, et il va là-bas avoir des élèves, et il est quelqu'un qui fixe les mois en dehors d'Eretz Israël. Donc il est suffisamment important, c'est un homme suffisamment important, un grand juge, et donc il va faire cette mitzvah-là, de fixer, aujourd'hui c'est le premier jour, au dernier jour du mois, cette année on va rajouter un mois ou pas, on va avoir un mois de Hadar en plus ou pas, ça c'est quelque chose qu'il va faire, et il le fait en dehors d'Eret Israël quand il sort là-bas. Les sages d'Eret Israël lui envoient deux personnes. Lorsqu'il les voit arriver, ils s'interrogent, ils disent, mais pourquoi vous êtes venu? Alors ils lui disent, parce qu'on est venu étudier la Torah chez toi. Ils trouvent ça un peu bizarre. Et donc, il se dit, attends, ces gens-là sont des très grands sages, et ils viennent chez moi pour étudier, ils n'ont pas besoin de moi, je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire ici. Et il y en a un, voilà, il commence à écouter ses paroles de Torah, et à chaque fois, ils viennent le contredire. Et à chaque fois, ils prouvent que ce qu'il dit n'est pas juste. À ce moment-là, il s'interroge. Il demande, vous moquez de moi, en fait. Vous êtes venu pour simplement me contredire et faire la démonstration que ce que je dis n'est pas juste. On n'est pas dans une démarche véritable d'étude. Tout ce que je dis qui est tamé, impur, vous dites que c'est tahor, que c'est pur. Donc ça peut pas fonctionner. Il n'y a pas une vraie discussion ici. Et donc ils lui disent, ouais, c'est vrai. La raison pour laquelle on est en train de faire ça, c'est pour te dire que tu n'as pas à fixer le calendrier en dehors d'Eretz Israël. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, cette année on va rajouter un mois en dehors d'Eretz Israël. C'est pas possible. Et ça, tu fais ça, et c'est pas normal. Donc on est venu te le dire. C'était notre façon de s'introduire chez toi pour te dire que c'est très, très, très embêtant, très, assez grave en fait ce que tu es en train de faire, et il faut que tu arrêtes. C'est ça que les sages d'Eretz Israël sont venus t'envoyer comme message à respecter. Il leur dit, mais je ne suis pas le premier à faire ça. Avant moi, il y a d'autres personnes. Rabbi Akiva a fait ça. Je dis, ah oui, c'est vrai. Rabbi Akiva a fait ça. Mais Rabbi Akiva était un très grand maître, était le plus grand maître de sa génération. Au moment où il l'a fait, c'était lui le plus grand maître. Alors, il leur répond, c'est vrai, et il s'avère que je suis aussi le plus grand maître de ma génération. » Là-dessus, ils lui répondent, « Oui, attends, quand tu es sorti d'Eretz Israël, tu étais le plus grand maître de ta génération. Tu as laissé des élèves derrière toi, et aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus les plus grands maîtres de la génération. Ils sont aujourd'hui plus importants et plus forts que toi. » Surprise. Donc, on est venu te dire simplement, soit tu écoutes ce qu'on te dit, soit on te met bénidouille. Ça veut dire que tu vas être exclu du peuple juif. C'est assez surprenant. Mais ils vont plus loin. Et ils vont dire, on va dire à tout le monde, à toute la communauté, si vous écoutez ce qu'on vous dit, ça veut dire que le calendrier n'est pas fixé en dehors d'Eretz Israël, mais uniquement en Eretz Israël, alors si vous écoutez ce qu'on vous dit, c'est très bien. Et sinon, si vous n'êtes pas prêt à écouter ce qu'on nous dit, si vous voulez absolument suivre Hanina, qui habite aujourd'hui en Chutz Laretz avec vous, si vous voulez absolument le suivre, et que vous ne voulez pas écouter ce que nous on vous dit, voilà ce qui va se passer. Vous allez monter sur la montagne, et on va construire là-bas un hôtel, et on va jouer de la musique, et vous allez chanter, vous allez faire des sacrifices là-bas, et vous allez chanter en faisant des sacrifices, nous n'avons aucune part dans le Dieu d'Israël. Voilà, donc c'est soit vous acceptez ce qu'on vous dit, soit vous allez déclarer que vous n'avez rien à voir avec le Dieu d'Israël, rien à voir avec le monde juif. C'est lourd. C'est une mara. J'ai pris le temps de raconter l'histoire qui est donnée à moi, parce que c'est quand même extrêmement lourd. Ok, on n'est pas d'accord sur un point de la Torah, où on peut fixer le calendrier. Je dis pas, le calendrier c'est quand même très important. Mais de là à dire, on va dire par là à toute une communauté, si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, ben vous devez déclarer sur la montagne que vous n'avez rien à voir avec le judaïsme, rien à voir avec le Dieu d'Israël, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est fondamental en fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si la communauté de Babylone de l'époque n'acceptait pas ce principe, qui est très particulier, c'est le principe du calendrier. Le principe de fixer le temps, fixer le début du mois, pas n'importe lequel. Si on n'est pas d'accord sur le fait que fixer le début du mois, ça ne peut se faire qu'à partir d'Eretz Israël, si on n'est pas d'accord sur ce point-là, alors vous allez sur la montagne et vous allez déclarer que vous n'êtes pas juif. Vous n'avez aucune part dans le Dieu d'Israël. Donc on est bien en train de dire que fixer le calendrier en Eretz Israël, c'est quelque chose qui est vraiment fondateur au peuple juif. C'est quelque chose qui est très quelque chose de fondamental par rapport au peuple juif et la relation du peuple juif sur cette terre. Dans la relation du peuple juif sur cette terre, le peuple juif doit fixer le calendrier à partir d'Eretz Israël. Et c'est ce que conclut la Gemara. Kol kach lama, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on a un verset qui dit « Ki mitzion tetsé Torah » ou Dvar Hashem Mirushalayim. Car c'est de Tzion que sort la Torah et la parole d'Hashem de Jérusalem. Ça veut dire que fixer le temps, c'est de la Torah. C'est la parole d'Hashem. Et ça ne peut se faire que en Eretz Israël. Voilà. Bon, pourquoi on a cité cette Gemara pour introduire ce que va expliquer le Rambam Maïmonide dans le Sefer HaMitzvot, sur cette mitzvah, de faire le calendrier, de dire, voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, donc aujourd'hui c'est Yom Kippour, voilà. Donc ça c'est une mitzvah, et le Rambam va expliquer cette mitzvah dans le Sefer HaMitzvot, et là-dessus il va dire une chose, que c'est un principe très important, Mishorcha Emouna, qui va vraiment à l'essence de la foi. Pour vraiment bien comprendre, il faut vraiment qu'une personne rentre vraiment sa connaissance, son esprit, son intelligence au fond de cette mitzvah. Mais bon, là, il va en donner les grands principes. Donc lui, il dit, le fait qu'on est aujourd'hui en dehors d'Eretz Israël, donc on va compter par rapport, on va faire le calendrier tel qu'il est, il a été établi et fixé. tel qu'il est établi et fixé. D'après la mathématique que nous avions, pour pouvoir faire en sorte qu'on retombe toujours sur nos pattes. Mais c'est quelque chose qui est fixé. Ce n'est pas quelque chose que les sages vont décider le jour de Rosh Chodesh, le jour du début du mois, ou le jour de Rosh Hashanah, ou la veille même, peu importe. C'est quelque chose qui est déjà fixé dans un calendrier préétabli. Et donc, lui, ce qu'il veut expliquer, c'est que ce n'est pas le fait que on se repose sur ce calcul, c'est pas ce calcul lui-même qui fait qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh ou que c'est Yom Kippour ou Rosh Hashanah. C'est pas le calcul lui-même du calendrier qui le fait. Mais en réalité, c'est le fait qu'il y ait des sages en Eretz Israël qui soutiennent le calendrier, qui fait que le calendrier tient. C'est ça l'idée qu'il développe. C'est-à-dire, on a un moment donné dans l'histoire du peuple juif où les juges, les grands de la génération, décident, vraiment les grands de la génération, décident quand est-ce qu'on va rajouter un mois dans une année, quel est le jour du début du mois, ça, c'est une époque. On a, à un moment donné, fait un calendrier, voilà, c'est écrit, c'est établi, chaque année, tel mois, il finira au 29e jour, et tel mois, il aura 30 jours, et tous les temps de temps, on va rajouter un mois à l'année ou pas. Et ça, c'est fixé. Alors le Rambam dit, attention, quand on dit c'est fixé, ne t'imagine pas qu'on est en train de dire qu'on se repose sur ce calendrier de l'époque. On se repose sur les sages qui sont actuellement en Eretz Israël, et c'est uniquement sur leur validation du calendrier qu'on se repose. S'il n'y a pas une validation des sages en Eretz Israël, à chaque année en fait, il n'y a pas de calendrier. C'est pas possible d'avoir un calendrier. C'est comme ça qu'il comprend la mitzvah, même avec le fait qu'on ait un calendrier. Et il dit, Vanim osif lecha biur dans le texte. Je vais te rajouter une explication pour que tu comprennes bien. Voilà ce que dit le Rambam. Ilou inachnu derech machal. Imaginons, pour exemple, que les Bnei Israël ne soient plus en Eretz Israël. Et là, il dit, c'est impossible que Hakadosh Baruch Hu fasse une chose pareille, parce qu'il a assuré que les signes représentatifs du peuple ne seraient jamais effacés. Et donc ça fait partie de Otot Ha'uma, parce que la représentation même du Ham Israël, les principes fondamentaux ne peuvent pas être effacés. Ça, le fait qu'il y ait des Juifs en Eretz Israël pour décider du calendrier, ça ne peut pas être effacé, c'est pas possible, dit le Rambam. Parce que si jamais ça avait eu lieu, alors, et qu'il n'y ait pas là-bas aucun tribunal pour décider du calendrier, velo yiye sham beddin, qu'il n'y ait pas là-bas de tribunal, velo yiye bechutz al haaretz beddin shelismar baaretz, et qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'y ait pas de tribunal qui a été nommé par un tribunal qui est en Israël, alors tout le calcul, ine cheshbone nous est, tous les calculs que nous avons et les calendriers préétablis, lo yorilenu klum bechum panim, ne nous serviraient à rien. Donc le calendrier qu'on a, on ne pourrait pas dire c'est Kippour, on ne pourrait pas dire c'est Rosh Hashanah, s'il n'y a pas un tribunal en fait qui valide ça en Eretz Israël. Alors la question n'est pas de savoir si c'est comme ça qu'on fait, si c'est comme ça qu'on a fait, etc. Ce n'est pas la question. Ce qui est très intéressant ici, c'est de comprendre ce que pense le Rambam, Maïmonide. Maïmonide, il nous dit ici que imaginer qu'il n'y ait pas une présence juive en Eretz Israël avec un tribunal capable de confirmer le calendrier, c'est impossible, parce que c'est les signes fondateurs du Ham Israël, et ça, à Kadosh Baruch Hu, Dieu a promis qu'il n'effacerait pas ces signes-là du peuple juif, c'est impossible. Donc, pour le Rambam, pour Maïmonide, on voit l'importance que ça a, dans le fond, qu'il y ait une présence juive en Eretz Israël. S'il n'y a pas de présence juive en Eretz Israël, en résumé, on pourrait dire ici, d'après le Rambam, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier juif. Même si on a la technique pour savoir si aujourd'hui ça devrait être Rosh Hashanah ou Kippour. Il n'y a rien. Et donc, ça, c'est tellement grave, c'est tellement important, c'est tellement incroyable, je dirais, cet avis du Rambam, que vu de cette façon-là, on peut vraiment entendre ce que voudrait dire que la mitzvah de s'installer, d'être présent en Eretz Israël, c'est quelque chose qui est vraiment très très général dans la Torah. Parce que c'est quelque chose de fondateur, qui tient tout. Si on n'a pas le temps, si on n'a pas le Kippour, si on n'a pas Rosh Hashanah, il n'y a rien qui tient. À quoi ressemblerait le Reb, le plus juif, sans calendrier? Et donc, effectivement, il le dit lui-même, c'est un des fondamentaux des signes représentatifs du peuple. Ça, c'est quelque chose qui peut bien nous faire comprendre cette idée-là, qu'on n'est pas en train de s'amuser dans le Rambam à essayer de trouver une réponse, pourquoi il n'a pas nommé, mais clairement, ça semble vraiment que si ce n'est pas compté, c'est évident que pour le Rambam, c'est quelque chose de général et que c'est quelque chose de fondamental. Et beaucoup et très nombreux sont les maîtres qui vont bien évidemment nous dire ici que le Rambam, Maïmonide, est tout à fait d'accord avec le Ramban, avec Nachmanide, sur le fait que s'installer en Eretz Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Et d'ailleurs, ça correspond quand même assez bien à tous les textes que nous avons vus plus tôt. Il y a d'autres explications qui sont proposées. Notamment, par exemple, le Avné Nézer. Donc, le Rav Avraham Bronstein, on l'a déjà cité tout à l'heure, lui, il va dire la chose suivante. Il va dire, on sait qu'il y a des mitzvot dont le titre, on va dire, qui sont cités, qui sont comptés, et dont le titre va être représentatif d'une chose, et son ascendant, des fois, peut paraître plus important, mais en fait, il n'est pas cité, mais c'est une façon particulière de compter les mitzvot. Ici, par exemple, le Rambam, Maïmonide, compte comme une des 613 mitzvot le fait de conquérir les sept peuples qu'il y avait à l'époque de Yeshua, de Josué. Il y avait sept peuples en Eretz Israël, et il y a une mitzvah de la Torah de les conquérir, de conquérir la terre et de leur enlever le droit d'être sur cette terre. En tant qu'idolâtres, qu'ils étaient, ils pouvaient rester à la limite s'ils respectaient les lois de la Torah, mais pas en tant qu'idolâtres. Et donc, il fallait conquérir et sortir de leurs mains l'autorité qu'ils pouvaient avoir sur cette terre. Ce que propose le Avnézer, c'est de dire que le fait de conquérir cette terre à ces sept peuples-là, ça suppose aussi qu'il faut rester sur la terre. Parce que si tu dis « j'ai conquis la terre » puis après tu t'en vas, ben en fait, elle va être réinvestie par d'autres idolâtres. Donc, il faut rester dessus. Donc, le fait de s'installer sur la terre, de faire la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, ferait partie de cette chose-là qu'il faut enlever l'idolâtrie d'Eretz Israël. Ce serait une mitzvah qu'il faut enlever l'idolâtrie d'Eretz Israël. Et s'il faut enlever l'idolâtrie de la terre d'Israël, une des façons, ben, c'est de vivre dessus. La première, c'est de faire la guerre aux idolâtres, comme ça a été fait à l'époque de Yoshua, mais une deuxième, c'est ben, de rester, de prendre place, et de faire état, de battre monnaie, et de vivre ici, et de construire une économie viable, de façon à ce qu'elle ne soit pas prise par des idolâtres par la suite. C'est aussi une façon, entre guillemets, de défendre cette terre de l'idolâtrie. Alors, nous ne sommes pas rentrés dans le détail de la démonstration du Megillat Esther, le commentateur qui vient défendre que, d'après Maïmonide, le fait d'habiter en Eretz Israël n'est pas une mitzvah de la Torah. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail, parce qu'il faudrait prendre plus de temps pour ça, et parce qu'il est vrai que certains maîtres se sont basés sur son explication pour maintenir ça. Ceci dit, ce ne sont pas la majorité de nos maîtres qui ont pris les décisions et qui sont décisionnaires dans la halakha. Donc, on a voulu, j'ai voulu aussi aujourd'hui exposer l'avis des grands maîtres et des grands décisionnaires sur cette loi-là, d'après le Rambam, d'après Maïmonide, comment on doit comprendre le Rambam et Maïmonide. Donc avec, d'une part, les lois qui vont dire que, d'une façon générale, un homme doit habiter en Eretz Israël, la loi sur l'esclave qui, s'il s'enfuit, eh bien, le fait d'arriver en Israël le libère de son esclavage, et aussi les lois sur le fait que entre un homme et une femme, s'il y a une dispute par rapport à Eretz Israël, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le contrat de mariage et donner droit à celui qui veut monter en Eretz Israël d'être libéré de ses obligations financières dans le mariage. Encore une fois, chose qui aujourd'hui nécessiterait quand même de prendre conseil et de effectivement bien réfléchir avant de rentrer dans ce niveau-là. Mais pour comprendre l'importance de cette mitzvah qui est donc tranchée de cette façon-là par Maïmonide dans son livre le Mishneh Torah. Et nous avons vu aussi la mitzvah de fixer le temps du Rosh Chodesh et l'importance que le Rambam, que Maïmonide, donnait à ce qui représente le peuple juif, qui va être de fixer le calendrier depuis la terre d'Israël. Ce sont des sujets qu'il faut chacun en soi réfléchir. Ils sont intéressants et complexes et lourds de sens. Et pour comprendre véritablement quelle est la nature de la mitzvah de s'installer en Eretz Israël, chacun de ces sujets peuvent permettre vraiment d'approfondir notre connaissance. Cependant, pour la question « qu'est-ce que pense le Rambam ?», voilà, je pense qu'on a donné aujourd'hui les explications de la plupart des grands maîtres de la Torah sur la vie du Rambam, sur Yishuv, Eretz Israël, l'installation en Eretz Israël. À très bientôt.